Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Chose Commune, émission dédiée au développement durable, à l'environnement, à l'écologie et à tous les sujets qui méritent de se situer dans ce champ d'action et de réflexion. Aujourd'hui, cette émission sera largement dédiée à l'alimentation et notamment à la restauration collective, enjeu majeur à la fois de production et de consommation. Et pour évoquer ce sujet et en parler autour de cette table, je reçois Cléa Blanchard, donc, qui est chargée de projet restauration collective dans la collectivité du pays des Trois Châteaux. Bonjour Cléa.
Bonjour.
Également autour de la table, donc Séverine Marchand, qui est diététicienne et nutritionniste, qui va aussi nous parler de son travail dans ce cadre-là. Bonjour.
Bonjour.
Et également donc un producteur local. Vous êtes maraîcher ?
Non, céréalier.
Céréalier, voilà, un céréalier. Donc David Péchard, bonjour.
Bonjour.
Et responsable, ou en tout cas qui œuvre donc pour la plateforme Manger Bio, qui a la vocation à faire le lien entre la restauration collective, les structures de restauration collective et les producteurs. On va évidemment en parler tout au long de cette émission. Pour présenter les tenants et aboutissants, les enjeux de ce projet du plan alimentation territoriale, Cléa, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet, ce qui le définit.
Oui, alors donc le projet alimentaire territorial, donc aussi appelé PAT, donc qui est un projet en fait qui est porté par une collectivité territoriale, donc le syndicat mixte du Pays des Châteaux. Donc c'est une collectivité qui regroupe l'agglomération de Blois, la communauté de communes du Grand Chambord et la communauté de communes de Beauceval-de-Loire. Et donc ce projet alimentaire territorial vise à mettre en place une stratégie agroalimentaire pour déployer les politiques d'alimentation et d'agriculture sur ce territoire. On peut dire que c'est un petit peu un projet qui rassemble différents acteurs, puisque il y a aussi un conseil local de l'alimentation qui a été mis en place sur le territoire pour décider un petit peu des actions et du coup de la direction à prendre. Et des actions qui peuvent être déployées sur ce territoire, encore une fois. Donc le projet alimentaire territorial, pour le définir, on peut dire que c'est vraiment une stratégie, une direction en termes de politique d'alimentation. Et donc il est défini en tout cas sur notre territoire par 5 enjeux que je peux peut-être déjà vous donner.
Ouais, allez-y, ouais.
Déjà il y a un enjeu en termes de diversité agricole pour avoir une richesse paysagère. Ensuite, plus un axe, disons, orienté sur le développement agricole. Donc l'idée, c'est de développer une filière alimentaire locale pourvoyeuse d'emploi. Ensuite, un troisième axe, plus sur le développement durable, justement, et la transition alimentaire, pour accompagner aussi les collectivités sur cet axe-là. Et donc, bien évidemment, aussi la transition alimentaire, mais aussi d'agriculture. Et enfin, donc, les deux derniers axes, donc, il y en a un plus en termes d'accessibilité, donc, pour sensibiliser, en fait, et rendre accessible une agriculture locale à l'ensemble de la population et des différents publics. Et enfin, donc, plus un axe tourné vers le tourisme et aussi la valorisation, en fait, du terroir. Donc, en résumé, ce projet alimentaire territorial vise à relocaliser, en fait, l'alimentation et vraiment développer une politique locale de l'alimentation et de l'agriculture en s'inscrivant en fonction des besoins aussi d'un territoire propre. Voilà.
Et donc pour mettre à bien ce projet, ce qui va me permettre de donner la parole à nos deux autres invités, on essaye de faire le point sur la chaîne complète de la production jusqu'au couvert, jusqu'à l'assiette. Et donc ça passe par la présence évidemment donc de nutritionnistes, puisque notamment dans la restauration collective et la restauration scolaire, les menus sont toujours validés par des diététiciens, des nutritionnistes, et évidemment donc du coup par des producteurs. Comment c'est opéré? Est-ce qu'il y a eu est-ce que c'est les chargés de projet, les coordinateurs de projet, ou le conseil du coup que vous évoquiez qui s'est créé, qui a acté vraiment cette maîtrise de la chaîne de production de diffusion?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, il faut savoir que le conseil local de l'alimentation, effectivement, regroupe différents collèges. En passant vraiment de la production, donc on essaie effectivement d'avoir des producteurs, des agriculteurs présents, un collège plus sur la transformation et la distribution, et puis aussi sur la consommation, donc avec des citoyens qui sont aussi consommateurs. Et puis après, bon, il y a d'autres collèges là plus sur par exemple ce qu'on appelle les influenceurs ou la sphère universitaire, ou également aussi les élus qui sont des acteurs aussi importants de la chaîne, disons. Et donc effectivement, pour revenir à votre question, donc le conseil local de l'alimentation avec l'ensemble des acteurs qui les réunit, donc il faut savoir que c'est entre 200 acteurs du territoire, en général plutôt voilà entre une trentaine et une cinquantaine d'acteurs qui sont présents à chaque réunion. Ils ont défini des actions en fait dans un plan d'action qui a été édité donc en 2020. Il en est ressorti ensuite des actions prioritaires pour définir en fait effectivement cette stratégie et voir les actions qui pourraient toucher la restauration collective. Donc c'est là où on en arrive à la restauration collective, mais après le conseil local de l'alimentation n'intervient pas pour ou indirectement disons pour définir ce qui doit y avoir dans les restaurations collectives. Voilà. Après c'est plus largement dans le cadre de la loi Egalim qu'il y a une demande donc d'approvisionnement en produits bio et de qualité durable. Donc nous on s'inscrit aussi dans ce cadre-là, mais par contre le projet alimentaire territorial lui vise vraiment à comme je le disais à une relocalisation de l'alimentation. Donc c'est aussi pour ça que on œuvre pour qu'il y ait un approvisionnement local dans les restaurations collectives. Et donc ça effectivement voilà, c'est plus quelque chose qui se retrouve dans la stratégie du PAT. Et pour laquelle du coup les différents acteurs participant au CLA ont pu vraiment plus ou moins d'une manière indirecte œuvrer. Voilà.
David Péchard, ce plan Egalim justement, il fait beaucoup pour les producteurs, pour justement remettre du local dans toute cette chaîne de distribution de la restauration collective.
Oui, pour nous agriculteurs, c'est une opportunité justement pour travailler avec les collectivités locales, essayer de leur fournir en produits donc locaux et en ce qui nous concerne en bio. Et ça demande un gros travail de notre côté pour fédérer déjà les agriculteurs autour de la table, répondre aux demandes qui peuvent être fortes. Hein. On parle de 20% de produits bio en restauration collective et certaines collectivités veulent aller même au-delà.
Donc, 20% une réglementation qui l'impose.
C'est la loi Egalim, voilà.
C'est la loi Egalim qui impose 20% dans la restauration collective.
Jusqu'à 20% de produits bio.
Et donc certaines collectivités sont en train de passer la vitesse supérieure.
Sur Blois notamment, ils ont l'ambition d'aller jusqu'à 50% de produits bio et locaux. Donc c'est maintenant à nous, si on veut y répondre en tout cas.
Très bonne initiative, mais très grand défi du coup.
Voilà, à nous de nous organiser et pour y répondre, voilà, on avait pensé, on a travaillé notamment avec la région sur la mise en place d'une plateforme physique pour aider les agriculteurs justement qui pourraient y répondre mais qui n'ont pas forcément le temps ou la possibilité commerciale pour le faire, d'avoir entre guillemets un intermédiaire, donc cette plateforme qui fait le lien entre les collectivités, les restaurateurs, les chefs de cuisine, les gérants de cuisine et les agriculteurs qui pourraient par ce biais-là répondre aux appels d'offres et aux demandes et planifier en tout cas toute cette demande.
Comment ça se passe assez concrètement, en étant assez succinct, mais sur cette plateforme, un chef de cantine, un responsable de cantine scolaire estime avoir besoin de tel kilo de carottes pour faire ses entrées pour ses 150 élèves et donc sur la plateforme il va avoir le listing des producteurs du département ou même peut-être plus serré qui peuvent lui fournir cette quantité-là de carottes pour faire ces entrées.
L'idée peut être ça, mais notre idée, là, on est comme qu'à l'état de projet aujourd'hui, hein. Ça va être mis en place là qu'en mai-juin 2022, mais l'idée, c'est de pouvoir planifier au mieux, parce qu'encore une fois, on est sur un pas de temps bien plus long que ce qu'une collectivité peut avoir pour prévoir des repas dans le trimestre ou dans le mois qui vient. Donc là, l'idée, c'est vraiment de planifier les choses, les besoins annuels d'une collectivité en salade, en carottes ou en pommes de terre, et que ensuite un maraîcher ou un céréalier ou un éleveur puisse anticiper et prévoir cette production qui corresponde à la demande réelle des collectivités.
On en parlait avant de prendre l'antenne, ça peut, donc du coup, notamment avec la restauration collective, être une question de volume assez conséquent.
Assez conséquent.
Comment on fait ? Alors, on en est qu'aux prémices, je comprends bien le dispositif. Comment ça s'organise ? Est-ce que les premières avancées sont plutôt encourageantes pour se dire qu'on va pouvoir répondre aux demandes, ou est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre qui va faire qu'on va avoir une moitié de pommes de terre qui viendraient des producteurs locaux, et puis une autre où il va falloir se fournir peut-être sur les circuits alimentaires un peu plus classiques, voilà.
Donc là aujourd'hui, la plateforme qui va être mise en place fait partie d'un réseau national qui existe déjà et qui est très développé dans d'autres régions en France. Et donc on a cette expérience déjà, donc on sait à peu près comment les choses peuvent fonctionner et les points sur lesquels il faudra être vigilant. La sécurité que l'on a, c'est qu'on est entouré de partenaires, ou on sera entouré en tout cas de partenaires type Biocoop Restauration, qui a possibilité, notamment sur des produits qui ne sont pas produits en région centre, comme le poisson, les surgelés, etc., je parle encore une fois pour le bio, de pouvoir répondre à la demande des collectivités sur ce type d'articles, d'éléments d'alimentaires. Donc, aujourd'hui, on est à capacité de savoir à peu près, enfin, on a fait le tour, en tout cas, des producteurs de la région centre sur la plupart des produits qui sont naturellement utilisés en cantine scolaire. On sait qu'on a des manques, on sait qu'on a des trous, et ça sera peut-être justement l'occasion, dans le cadre d'un PAT ou d'autres projets, de créer des nouvelles filières, production de pâtes, production de farine. On peut imaginer tout projet de filière inexistante aujourd'hui, mais si la demande est là auprès des collectivités, on peut imaginer construire des filières avec les agriculteurs pour y répondre au mieux.
Très bien. Je vais me tourner vers Séverine, puisque en bout de chaîne, on peut supposer que vous intervenez pour valider les propositions donc de menu. C'est ça l'idée du nutritionniste. Peut-être qu'il y a besoin de repréciser à quoi consiste le dispositif des nutritionnistes, des diététiciens dans la constitution des menus. Je pense notamment au menu scolaire, parce que voilà, mais ça dépasse peut-être le scolaire.
Tout à fait. Justement, donc je me permets de me situer dans ce contexte avec le Pays des Châteaux. Donc moi, mon entreprise, c'est OSA Centre, organisme de suivi alimentaire. Donc il y a pour vocation de conseiller, accompagner, animer les collectivités donc dans une démarche d'alimentation saine et durable. Donc j'agis avec différents moyens, de la formation aux professionnels. Donc les diététiciens, nutritionnistes, justement, ont cette vocation-là de former, d'accompagner donc les professionnels, les encadrants aussi, les acteurs en fait qui sont autour du repas. J'accompagne donc des communes aussi dans cette démarche d'alimentation saine et durable. On a entendu parler des textes réglementaires, la législation avec la loi Egalim. Donc j'accompagne dans ce sens. Et puis aussi, je fais de l'animation donc auprès des convives, ce qui est très important justement de rapprocher le convive à l'aliment, à son assiette. Donc là, j'interviens en fait dans le PAT des Pays des Châteaux, donc sur l'axe de l'éducation au goût, qui est, comme vous dites, un petit peu au bout de la chaîne et qui est un moyen puissant en fait pour allier dans l'alimentation la notion de plaisir, le plaisir de manger, et la notion de santé au quotidien. Donc l'éducation au goût, parce qu'on la connaît pas assez bien, il faut vraiment l'explorer au quotidien, chez soi, au restaurant, enfin à chaque fois qu'on mange. L'éducation au goût, ça contribue à retrouver un sens à l'acte de manger, ça permet aussi d'amener du respect à son assiette, justement de comprendre l'histoire, l'aliment, comment il est arrivé dans mon assiette, d'où il vient, où est-ce qu'il a été produit, comment il a été cuisiné, de respecter aussi les humains donc qui ont œuvré pour servir cette assiette au bout à la cantine, savourer les aliments aussi, on apprend à déguster par les étapes de la dégustation, utiliser ses cinq sens dans l'alimentation. Et du coup, à la finalité, ça contribue à limiter le gaspillage alimentaire, qui est aussi un enjeu en restauration collective. Du coup, en restauration collective, donc plus exactement, oui, sur la partie scolaire, un diététicien nutritionniste a le devoir, du coup, de contrôler, valider effectivement les menus sur la partie équilibre alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit équilibre alimentaire, hein, c'est bien beau, mais c'est manger varié, une notion vraiment de variété, diversité des familles d'aliments, des recettes derrière qui la composent, et en juste quantité. Par-dessus s'ajoute donc la réglementation, la fameuse loi donc EGalim complétée par la loi climat et résilience. Donc moi j'aime bien la résumer avec trois notions. La loi EGalim, c'est mieux acheter, mieux manger pour moins jeter. Donc dans cette loi EGalim, faut comprendre qu'il y a l'arrivée aussi l'intégration de menus végétariens. Alors en restauration scolaire, on appelle un menu végétarien avec des protéines, aussi des œufs. Et issu du lait, donc c'est un menu ovo-lacto-végétarien. L'intérêt de ce menu, c'est vraiment d'arriver à diversifier son alimentation, surtout sur la matière, enfin en termes de protéines. Et du coup, là, on va explorer justement à travers les producteurs, explorer puis exploiter hein, tout ce que vous pouvez fournir. Et puis, bah, la région centre, on a tellement un territoire riche, il faut en consommer et en mettre dans les menus. Et là où le diététicien nutritionniste intervient aussi, c'est rapprocher ce convive, cet enfant, comme là on est en restauration scolaire, cet enfant de ces légumes secs qui sont parfois vraiment inconnus ou méconnus en termes de dégustation, de goût et de plaisir à manger.
Est-ce que pour un enfant de d'école élémentaire ou de collège, moi je l'ai constaté, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont assez récentes, ne serait-ce que d'avoir un affichage de la provenance des céréales qui sont dans l'assiette, de la viande qui soit peut-être produite pas très loin. Est-ce que ça participe à l'éducation au goût que dont vous parlez?
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Qui prône le circuit court, vraiment un cheminement assez court. Qui part du champ vers l'assiette.
Exactement. Ça permet à l'enfant, donc il faut, par contre, il faut savoir l'accompagner, effectivement, hein, cet enfant, lui donner l'information, accompagner cette information. Donc là, on peut sous-entendre aussi que les enseignants, les cuisiniers, les agents de restauration qui servent le repas participent aussi à cette communication. Ça permet de montrer cette diversité de métiers aussi sur notre propre territoire et de retrouver le savourer de façon gourmande dans son assiette, ouais.
Comment on s'organise pour fournir. Alors, vous êtes céréalier du coup, donc c'est les légumes secs. Pareil, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Là récemment, il y a un engouement pour cette alimentation plus diversifiée, plus locale aussi.
Oui, on le voit de plus en plus, depuis 5-6 ans, en effet, une demande réelle du consommateur pour des produits à base de protéines végétales, notamment, qui mangent moins de viande ou alors de la viande de meilleure qualité. Et notamment, on parlait de la restauration scolaire, notamment des écoles primaires. Notre communauté de communes, là où on est, là, autour de Mer, donc Beauce-Val-de-Loire, a formé les cuisiniers des différentes cantines scolaires qui sont réparties sur le territoire à l'intégration justement de légumes secs dans les plats. Et on a remarqué que depuis cette formation, et notamment des interventions d'agriculteurs pendant le repas auprès des élèves, on a remarqué un engouement, c'est peut-être un bien grand mot, mais une appétence, on va dire, des enfants, en tout cas pour ce type de, je dis pas de repas nouveau, mais qui change un peu de l'ordinaire. Et là, ça a été fait il y a 6-7 ans maintenant, cette formation. Et c'est quelque chose qui se maintient aujourd'hui et qui est ancré dans les habitudes des élèves et puis des cuisinières ou des cuisiniers sur place. Donc là, il y a vraiment un vrai intérêt. Et voilà, l'échange avec le cuisinier est toujours plaisant, pertinent. Nous, producteurs, on s'arrête fréquemment à l'acte de production et sans aller beaucoup plus loin. Et aller apporter nos produits à des cuisiniers qui le travaillent, le transforment et le mettent au goût du jour éventuellement. Et discuter ce qui peut nous arriver aussi avec les élèves est vraiment très épanouissant et très intéressant.
Quand on parle de restauration collective, moi, il y a deux cases qui me sautent aux yeux. Il y a effectivement donc les cuisines, on va dire collectives individuelles, où le chef a toute latitude pour œuvrer, faire ses menus, etc. Et puis les cuisines centrales. Est-ce que le travail entre ces deux structures-là est le même?
Du tout. Ouais. Alors là, je maîtrise beaucoup moins sur les cuisines centrales parce que personnellement,
peut-être
je ne travaille pas avec.
De nos deux autres.
Je me permets. Voilà.
Et puis on reviendra sur les cuisines individuelles.
Effectivement,
peut-être après.
Sur les cuisines. Donc on travaille avec différents.
Puisque les cuisines centrales fournissent aussi certaines encore écoles, certains établissements de grande envergure, enfin des grandes entreprises, etc.
Complètement, c'est ça. Alors sur le territoire, en fait, on est en train de recenser effectivement les différents types de modes de gestion qu'on peut avoir. Donc on sait déjà qu'on a des communes ou des restaurants scolaires qui sont en régie, donc ce qu'on appelle en gestion directe, avec une cuisine sur place effectivement, et voilà, où le repas est vraiment préparé sur place et du coup servi aux élèves dans la foulée. Ensuite vraiment donc des cuisines qui sont gérées par un prestataire, donc là en délégation de service public, et donc là effectivement c'est plus des repas qui vont être amenés, qui vont être préparés parfois assez loin, même pas forcément dans la région, et qui vont être amenés ensuite et donc soit réchauffés, la plupart du temps c'est plutôt réchauffé, et ensuite
il y a cuisiné sur place et réchauffé sur place, c'est ça l'idée.
Voilà, c'est plus de la réchauffe effectivement que de la cuisine, et ensuite donc il peut y avoir d'autres types après de modes de gestion, mais effectivement les cuisines centrales donc qui sont un autre mode de gestion, donc qui sont souvent une cuisine qui permettent de préparer des repas à un endroit pour différentes cantines. Donc là, c'est plus le cas. Donc on a sur le territoire le cas par exemple de la commune de Vineuil ou même de la commune de Blois. Donc là, c'est vraiment des problématiques peut-être différentes aussi en termes de logistique et de transport qui sont aussi à penser. Et donc là, par exemple, sur la commune de Blois plutôt, donc il y a un projet actuellement en réflexion pour voir justement, disons, ouvrir cette cuisine centrale à d'autres communes, et que la gestion aussi soit assez différente et que ça puisse permettre d'approvisionner ou de préparer des repas pour d'autres cantines. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment des problématiques assez différentes. Et puis pour les communes du coup qui sont avec une cuisine sur place, mais là en ruralité, c'est aussi des problématiques en termes de transport et de logistique pour s'approvisionner justement auprès des producteurs locaux, puisque ça demande effectivement de pouvoir passer un accord avec les producteurs en termes de livraison, donc ce qui n'est pas forcément toujours évident puisque c'est aussi des cantines avec des petits effectifs, donc par exemple une cinquantaine de repas par jour, ce qui est quand même assez peu aussi. Et en même temps ça demande aussi pour les producteurs de pouvoir avoir le temps de livrer aussi différentes communes avec ces besoins là, ce qui n'est pas aussi toujours évident pour les producteurs. Donc il y a vraiment un travail de mise en réseau en fait et de discussion qui est très important et qui est aussi à faire au sein du PAT pour permettre justement de voir les liens ou en tout cas les solutions ou alternatives possibles et envisageables. Et c'est aussi pour ça voilà que ce projet vise à pouvoir mettre en relation les différents acteurs du territoire pour au moins avoir un lieu d'échange, de discussion, de débat et éventuellement du coup de vraiment solutions. Et donc par exemple oui, je pensais aussi en termes de pour les petites cantines donc avec un effectif d'une cinquantaine de repas par jour qui sont avec des cuisines sur place, il y a vraiment une volonté, enfin en tout cas c'est vraiment ce qu'on retrouve sur le territoire, une volonté de certains élus à garder et à maintenir aussi ce service public dans leur commune, et en même temps avec la difficulté parfois de ne pas voir le prix des repas augmenter, donc c'est aussi une question sur laquelle il peut y avoir débat sur le prix qui doit être accordé aux à l'approvisionnement aussi en produits bio et locaux. Donc voilà, c'est vraiment des débats et des discussions que nous avons dans le cadre du PAT et qui sont, je pense, nécessaires d'avoir pour aller de l'avant tous ensemble.
Séverine, on entend bien avec l'échange qu'il y a là, le nombre de partenaires, la taille des différentes structures, c'est un casse-tête pour les diététiciens, les nutritionnistes qui doivent avoir l'œil sur chaque aliment, leur provenance, l'équilibre par rapport à peut-être une semaine ou un mois des fois de prévisionnel. Comment ça s'organise votre travail dans ce contexte voilà, de multipartenarial?
Alors, c'est vrai que chaque commune est particulière, a ses particularités, déjà dans le point de vue de son fonctionnement, dans le nombre de ses convives, l'âge de ses convives. Après, nous, en tant que diététicien, on se base pour faire les menus. Donc, on se pose sur une trame qu'on appelle un plan alimentaire, parce que l'équilibre alimentaire, on le mesure sur un cycle de 20 jours, ce qui nous permet justement d'avoir des recettes plaisir de temps en temps, un équilibre vraiment diversifié et planifié sur un mois.
Et on pense à tous les enfants qui veulent des frites.
Tout à fait, on les place au moins une fois par mois, voilà, pour le plaisir. Et donc avec le cuisinier, donc c'est vraiment un travail binôme, hein, diététicien cuisinier. De cette trame, en fait, le diététicien a vraiment pour rôle d'asseoir, de planifier ce plan alimentaire, qui est un vrai casse-tête au niveau équilibre sur la journée, sur la semaine, et répondre donc aux enjeux de l'équipe des menus et puis des Galim. À ceci, après, s'ajoute donc le chef de cuisine fait ses menus. Après, il fait selon aussi les commandes, parce que par exemple le lundi, on va pas prévoir du poisson frais parce que on peut pas se faire livrer le lundi de poisson, donc ça faut l'anticiper aussi en amont. Après, on ajoute les contraintes matérielles dans une cuisine. On peut pas envisager une entrée chaude, un plat qui va au four et puis un dessert pâtissier, puisque j'ai qu'un seul four pour mes 200 couverts. Donc tout ça aussi, le diététicien, il faut qu'il en prenne compte, hein, pour valider les menus derrière. Et puis la finalité, il faut aussi que les enfants apprécient. Et donc qu'ils finissent les assiettes, qu'on fasse des recettes voilà, qui soient connues, faire de la découverte en les accompagnant, pour éviter à tout prix de jeter des kilos et des kilos à la journée.
Comment on s'organise, David, sur le groupement donc d'agriculteurs qui participent à ce dispositif? Donc vous l'avez précisé tout à l'heure, effectivement, on aura du mal à s'approvisionner local, notamment en poisson, par exemple. Quels sont les gros points faibles, ou en tout cas les endroits où le volume a du mal à être important en région centre pour pouvoir fournir équitablement, parce qu'on a quand même une diversité en termes d'élevage, de maraîchage, de céréales. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des endroits où on aura du mal à pouvoir fournir la quantité demandée par tous ces établissements?
On a vraiment la chance en région centre d'être dans une région donc diversifiée en termes de production, et donc d'avoir une gamme suffisamment, enfin très large en tout cas en termes de produits à proposer aux différents restaurateurs. C'est vrai qu'après, la difficulté, c'est plus sur des produits transformés entre guillemets, par exemple les yaourts. On aura aujourd'hui plus de difficultés à trouver des yaourts bio locaux, puisque la filière n'existe pas, au moins pour le Loir-et-Cher. D'où l'intérêt d'élargir un peu et de faire une plateforme à échelle régionale, et de pouvoir boucher les trous entre guillemets de choses manquantes dans le Loir-et-Cher avec des produits issus d'Indre-et-Loire ou du Cher ou du Loiret, avec une logistique adaptée. Et c'est là, je voulais revenir là-dessus, là le gros frein en tout cas pour nous producteurs, c'est le côté logistique. C'est vrai que fournir trois carottes, cinq salades sur des écoles locales, ça peut se faire, mais c'est assez compliqué, ça prend du temps et c'est pas forcément très pertinent. Et c'est vrai que l'idée de faire cette plateforme en s'appuyant sur des prestataires existants qui ont déjà des flottes de véhicules adaptées est une chance, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça peut facilement aider au transport de marchandises issues du Loiret vers le Loiret-Cher ou inversement du Loiret-Cher vers le Loiret et de répondre aux principaux bassins de vie qui sont Orléans-Tours, pour faire simple, les grands bassins de vie qu'on peut imaginer.
C'est ce que disait Cléa tout à l'heure, effectivement, et l'idée peut-être d'une cuisine centrale locale pourrait presque émerger. En fait, c'est ça l'idée de peut-être de tendre vers ça, qui pourrait cuisiner sur place, de pouvoir réceptionner tout un tas de produits locaux et de pouvoir distribuer ensuite aux structures locales.
Alors, c'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse, mais disons que c'est une question, je pense, avant tout politique aussi, et que voilà, enfin, au-delà de ça, je pense qu'y a pas que du politique, mais entre autres, mais voilà, ça demande une grosse organisation effectivement sur
oui, et puis une réflexion évidemment globale, hein,
une
tout
réflexion
à fait, oui.
Globale.
Et puis je vous donne la parole après.
Et puis oui, voilà, enfin un accord en tout cas ou en tout cas une réflexion vraiment aussi enfin économique, enfin vraiment en termes de replanification.
Une pensée transversale sur laquelle travailler, oui,
tout à fait. Mais par contre, enfin voilà, c'est ce qui, enfin, on essaie de mettre de la transversalité dans le PAT, voilà, même si effectivement il y a encore beaucoup à faire.
Séverine.
Oui, pour rebondir, je sais pas si une cuisine centrale serait la solution pour le Loiret-Cher. Je pense que ça serait dommageable d'avoir un seul, on va dire, chef de cuisine, hein, je caricature, mais je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur tous nos forces et nos savoir-faire. Et puis un cuisinier dans cette commune va avoir cette technicité-là, cette recette, lui laisser le...
Ça participe de l'éducation au goût aussi, de ne pas faire disparaître l'identité. Quand bien même il y a une identité, voilà, dans une restauration collective, de garder des pôles avec, voilà, des disparités grandes de taille, ouais, et de possibilités de fourniture, ouais.
C'est ce que je pense, garder, voilà, le cuisinier, quand on a la chance d'avoir un cuisinier dans son école, c'est un métier, faut garder ce modèle-là. Après, effectivement, tendre au maximum, après, c'est des réflexions, ça, beaucoup plus politique, effectivement, de revenir en régie. Alors, il y a des communes, hein, qui le font, hein, qui arrivent à sortir d'une société de restauration et revenir en régie. Et ça, je pense que ça peut être, pourquoi pas, une solution pour des petites structures, des petits villages, de se regrouper. Mais gardons au maximum le savoir-faire des cuisiniers sur place.
Est-ce que, dernier tour de table, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, David ?
Alors de notre côté, donc voilà, on travaille justement pour pouvoir répondre à cette loi Egalim, mais aux demandes des collectivités. Donc l'association qu'on va mettre en place, Manger Bio en région Centre-Val de Loire, va être effective logiquement avant la fin de l'année scolaire, donc mai-juin, pour être pleinement efficace à la rentrée 2022. Donc on espère pouvoir fournir l'ensemble des cantines scolaires de la région avec un maximum de produits bruts et de produits bio et locaux. Et on encourage évidemment tous les agriculteurs qui veulent s'impliquer dans ce type de démarche à se rapprocher au sein des groupements des agriculteurs bio des différents départements de la région centre. Voilà, on est ambitieux, il faut être ambitieux.
Bien sûr, ouais.
C'est une opportunité à saisir, c'est un gros travail à faire, un défi à relever. Pour l'instant, ça marche bien. On a 60 agriculteurs qui sont groupés justement pour cette future structure.
Dans tous les domaines déjà, on voit que
dans tous les domaines, on a quasiment tous les produits présents et disponibles pour la région. Donc c'est en bonne voie et voilà, on remercie les collectivités également parce que c'est elles qui sont quand même les donneurs d'ordre et donc c'est elles qui impulsent exactement ce type de projet et qui peuvent nous encourager à continuer et aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui.
Cléa, vous attendez, j'imagine, beaucoup là, de cette création de la plateforme.
Oui, enfin, disons surtout les restaurants, effectivement, je pense du territoire, effectivement. Et puis voilà, pour pouvoir aussi, pour ceux qui le souhaitent, enfin en tout cas appliquer et mettre en œuvre les demandes de la loi Egalim. Après là, effectivement, je pense que c'est un travail, comme on le disait au départ, et peut-être là, ça bouclera la boucle d'une certaine manière, qui se fait vraiment, je pense, avec l'ensemble des acteurs du territoire, encore une fois, et donc aussi les financements qui sont alloués dans ce sens-là. Et donc voilà, en tout cas c'est ce qu'on va continuer à faire dans le cadre du PAT en ce qui nous concerne.
Séverine, pour conclure.
Eh ben, je complète. Effectivement, à l'issue du projet, hein, donc initié par le Pays des Châteaux, il y aura un guide pratique hein, qui sera proposé du coup aux communes du territoire, qui permettra, enfin, qui veulent s'engager du coup vers une démarche d'alimentation saine et durable. Ce guide, du coup, il présentera les actions qu'on aura pu mener cette année et puis sur le deuxième projet qui débutera en septembre 2022 dans 6 autres communes. Il y aura des explications, présentations de nos actions d'éducation au goût. Donc comme ça pourra se propager dans les autres communes. Il y a des actions aussi en termes de valorisation donc des déchets et puis des actions de formation pour l'approvisionnement justement des produits bio et locaux. Donc en attente de ce guide et pour que toutes les communes s'engagent dans cette démarche d'alimentation saine et durable.
Eh bien, merci à tous les trois d'être venus au micro donc de La Chose Commune pour échanger sur cet enjeu majeur hein, qu'est l'alimentation et notamment l'alimentation collective. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Chose Commune. Au revoir à tous.